France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Évidemment, on cherche la concordance avec les Gilets jaunes, un mouvement né sur le net, un mouvement horizontal, un mouvement très hétéroclite, un mouvement aussi aux revendications floues. Chacun avait sa perception de ce qu'étaient les Gilets jaunes. C'est pareil cette fois-ci avec un éventail d'adhésions qui va des souverainistes à la gauche et passe aussi par des gens qu'on ne connaissait pas alors, ou en tout cas qu'on connaissait moins, mais qui ont émergé de leur silence depuis, les antivax, les complotistes, autant de colères qui sont nées du confinement. Concordance donc entre Gilets jaunes et 10 septembre. Et puis il y a aussi ce qui divers. Et justement, parce qu'on a appris d'abord de 2018 ce qui diverge le plus, et nous demanderons à nos invités ce qu'ils en pensent, c'est que les partis, les syndicats qui n'ont pas vu venir les Gilets jaunes et n'ont jamais su les rattraper, se sont greffés très vite cette fois au bruit qui monte très vite aussi. Et c'est là que ça devient d'ailleurs intéressant, parce que les deux moments, pour ne pas dire les deux mouvements, puisqu'ils se confondent, les deux moments ont un discours anti-élitiste, les guillemets sont là, très défiant envers les politiques. Que se passe-t-il quand justement les politiques et syndicats s'en mêlent? Ça, c'était valable jusqu'à hier. Depuis, il y a une autre date, le 8 septembre, un vote de confiance qui a toutes les chances de renverser le gouvernement, en tout cas, c'est ce qui tient la corde au moment où on se parle. Est-ce que le 10 septembre appuie sur cette situation politique soudainement différente? Est-ce que le 8 septembre dissout en partie le 10? On le saura bien sûr dans deux semaines, mais on attend aussi vos réflexions là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement, qu'il s'envole ou qu'il fasse pchit, montre quelque chose de sourd, qui traverse la société depuis 2018, qui s'endort, et puis aussi se réveille sous des formes diverses. Peut-être que le vrai sujet, au fond, c'est là qu'il est, c'est le téléphone sonne, mes amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Vous le savez, ce soir, vos questions, je les lis avec plaisir. Vous êtes nombreux et c'est normal. Voici donc Fabrice qui nous dit ceci pour alimenter votre réflexion. J'ai du mal à comprendre le rapport avec les Gilets jaunes. C'est bizarre de dire ça. Moi, j'ai bien connu les Gilets jaunes et je ne comprends pas le rapport. Ça n'a rien à voir et je suis même un peu étonnée. Voilà ce que nous dit notre ami Fabrice pour discuter avec nous autour de la table. Il y a Anne Rosenchère d'abord. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Vous avez aussi travaillé à dépouiller les cahiers de doléances, justement, des Gilets jaunes. Et on est heureux de vous avoir aussi, peut-être même surtout pour ces raisons-là. Il y a Frédéric Dabi, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de l'Institut IFOP. Et puis Sylvain Boulouk, vous êtes historien, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Reims. Bah, c'est d'abord à vous que je vais poser la question, du coup, Anne Rosenchère. Les similitudes, on les voit. Et en même temps, ça laisse un peu perplexe notre ami Fabrice. Qu'est-ce que vous mettez dans les plus et les moins, vous?
Moi, je suis d'accord avec Fabrice.
Okay.
Je pense que pour comprendre la différence vraiment fondamentale entre les deux mouvements, il faut se souvenir du début du mouvement des Gilets jaunes, dont on avait assez peu vu ou noté les signes avant-coureurs. Je me souviens rétrospectivement d'amis en Bretagne qui m'avaient dit « Tu devrais regarder, il y a des Gilets jaunes sur les plages arrière des voitures, sur les parkings des Leclerc. » Parce que c'était comme ça que potentialisait au tout début le mouvement. Et tout d'un coup, ça a éclaté. Quand même à la surprise générale, on peut toujours dire que c'était prévisible, etc. Mmh. Mais il y avait cette espèce de bout de France au sens d'un échantillon, mais extrêmement hétéroclite, depuis la mère célibataire soignante jusqu'au commerçant, passant par le petit patron de PME, etc., qui coagulait sur les ronds-points, donc pas du tout le lieu habituel de la contestation sociale, et qui était pas représenté, ni bien sûr par les partis politiques, ni même dans leur propre rang. Ça, c'est très important parce que on a tendance aujourd'hui à un peu amalgamer les Gilets jaunes aux leaders qui ont émergé quand le mouvement avait totalement réduit à rien du tout. Et d'ailleurs,
il y a encore ces leaders-là, d'ailleurs, ont beaucoup bougé, ça a été très volatile.
Et puis il y a beaucoup de Gilets jaunes à l'époque qui me disaient, enfin, je me souviens sur les terrains, etc. Moi, je ne veux pas être assimilé à Fly Rider.
Mais du coup, la différence là, c'est quoi? Vous diriez que c'est pas un mouvement spontané, alors que les Gilets jaunes étaient un mouvement spontané?
Je dirais que c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça part de la marge.
Ouais.
On part là de, comme vous le rappeliez, des,
complotistes,
des boucles Télégramme, Frexiteurs, etc. Ouais. Et en revanche, comme on se dit, peut-être que ça va prendre quand même, et qu'on voit qu'il y a un petit frémissement, eh bien les médias en parlent, beaucoup plus qu'à l'époque, faudrait regarder le nombre de...
Voilà. Mais ça veut dire qu'on y va, comme les politiques, on y va parce qu'on a la trouille de rater quelque chose,
en fait, nous aussi. 17 fois, et puis là, je pense que les politiques, c'est pas qu'ils ont la trouille, c'est qu'ils ont envie que ça prenne. Donc, il y a un mouvement inverse dont on est bien en peine de savoir si ça va prendre ou pas. Mais je suis d'accord avec Fabrice, et on reviendra peut-être sur les mots d'ordre, ça n'a quand même rien à voir.
Est-ce que vous, monsieur l'historien Sylvain Boulouk, vous dites que ça commence pareil, en fait, aujourd'hui, avec le recul, ou là aussi, effectivement, la concordance, effectivement, c'est le net, parce que c'est là que ça démarre à chaque fois, mais alors, après, plus rien à voir.
C'est toujours compliqué, parce qu'on fait toujours de l'histoire rétrospectivement, et qu'on a un certain nombre d'indices qui existaient dès la fin 2017, avec d'autres antivax qui étaient ceux qui étaient hostiles aux 11 vaccins proposés par le ministère de la Santé à ce moment-là. Il y a eu des manifestations éparses contre, enfin, de motards, puis, qu'on a retrouvé là dernièrement avec les gueux. Un certain nombre de manifestations qui...
Mais les gueux qui n'y sont pas d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il était là, Alexandre Jardin, ce matin sur l'antenne, ils ne sont pas dans le mouvement du 10.
Oui. Donc d'autres manifestations éparses qui existaient, avec une fermentation qui a été un peu différente, parce que là, les récupérations politiques ou les agglomérations politiques ne sont pas du tout les mêmes. Je vous rappelle que dans les deux premières semaines, dans les ronds-points, il y avait Laurent Wauquiez qui arborait un magnifique gilet jaune. Et un certain nombre de cadres plutôt de la droite ou du Rassemblement National qui étaient présents sur ces ronds-points. C'est après où une partie de la gauche, et surtout de la gauche radicale, s'est greffée au mouvement des Gilets jaunes et que le mouvement a complètement changé. Après, sur ce qui est des revendications, là, c'est à la fois les mêmes et pas vraiment les mêmes, puisqu'on a beaucoup plus déjà un conglomérat épars et contradictoire qu'on pouvait aussi retrouver dans les Gilets jaunes. Mais c'est pas exactement la même fermentation, même si on retrouve un certain nombre d'éléments et un certain nombre de personnes qui étaient déjà dans le premier mouvement, qui sont prêts à reprendre le service, entre guillemets.
Parlez-nous de contexte, Frédéric Dabi, parce que là où c'est intéressant, c'est que l'élément déclencheur, ce qui fait que ça explose au moment des Gilets jaunes, même si c'était effectivement dans l'air, il y a eu, on se souvient, la taxe carbone, il y a eu un bout de 80 km/h aussi, enfin, c'était des revendications qui ressemblaient vraiment à ça, des choses très quotidiennes. Là, est-ce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus politique, qui émerge sur le budget, ce qui n'a quand même rien à voir?
Je pense que c'est vrai que ça a été très très bien dit. D'un côté, c'était un mouvement surprise. Moi, je me rappelle que quelques semaines avant les Gilets jaunes, on ne parlait que du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, de l'armistice, et de la pérégrination, de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron, avec la polémique sur le maréchal Pétain. C'était ça qui occupait l'espace médiatique et même qui le saturait. C'est vrai que, on dit toujours les Gilets jaunes, ce qui a été les deux moteurs, ça a été la taxe carbone et cette fameuse crispation et souffrance sur le pouvoir d'achat, le travail qui paye mal. Je suis une famille monoparentale, vous en parliez Anne, j'ai deux ou trois emplois mais j'arrive pas à joindre les deux bouts. Là, ce que je trouve beaucoup plus fort, c'est que c'est un mouvement, il est déjà attendu, c'est pas un mouvement surprise. D'ailleurs, si je puis me permettre aussi, depuis 2022, à chaque rentrée, on dit que ça va péter. 2022, c'était les retraites avec la France insoumise. 2023, les manifestations contre les violences policières. Et quand un mouvement est trop attendu, il ne se passe rien. La France s'ennuie quelques semaines avant mai 68, ce n'était pas attendu. Mais là où je trouve que c'est beaucoup plus fort qu'en 2018, c'est qu'il y a une sorte de lourdeur dans le pays. Il y a cette éclipse du politique que nous vivons depuis le 7 juillet 2024, cette dissolution qui n'a pas donné une majorité absolue. Les Français qui ont le sentiment que ce n'est plus là que ça se passe. Il y a deux dimensions dans ce cadre-là où le politique ne joue plus son rôle, et ce qui fait qu'il n'est plus là pour réguler, pour être un réceptacle au mécontentement, même si on a le réceptacle présidentiel.
Mais ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je disais en introduction qu'il y a quelque chose de sourd malgré tout qui existe. Effectivement, on se dit ça va se réveiller, puis ça se réveille pas, puis ça va se réveiller, ça va se réveiller.
Il y a deux choses.
Donc est-ce que le ferment, malgré tout, à la fin, c'est la même vague en fait?
Moi, je trouve qu'il y a
qu'elle s'appelle gilet jaune ou autre chose.
Oui, les ferments sont les mêmes, mais on est moins sur le travail qui paye mal. Il y a une crispation beaucoup moins forte sur le pouvoir d'achat, mais il y a deux dimensions très fortes. L'injustice et sur le budget Bayrou, contrairement à ce que François Bayrou a dit, les Français l'ont écouté et l'ont plutôt soutenu sur la gravité de la situation de la dette, sur un certain courage, je n'ose dire un certain panache, mais sur les solutions, il n'a pas été du tout soutenu.
C'est intéressant.
C'est le premier levier.
C'est intéressant que ce soit le mot injustice que vous soulignez, parce que moi je me souviens pendant les Gilets jaunes, vous allez m'arrêter si je me trompe, Sylvain Boulouk, ce qu'on entendait c'était mépriser, ignorer, éloigner, ça ne dit pas du tout la même chose.
Non, ça ne dit pas la même chose. Alors après, j'aurais trois petites remarques à faire.
Vas-y.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que les premiers appels viennent de la sphère souverainiste de l'extrême droite ultra-parlementaire ou non-parlementaire, qu'ils sont antérieurs aux annonces de Bayrou et qu'à partir du moment où il y a les annonces de réforme, le mouvement prend corps et il y a un certain nombre de personnes...
À partir du 15 juillet, à la première intervention, effectivement.
La deuxième observation qu'on pourrait faire, c'est qu'en fait, le thème de la rentrée sera chaude, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, la CGT faisait systématiquement des mots d'ordre sur... avait systématiquement des mots d'ordre, pardon, sur la rentrée sera chaude, des appels à la grève qui étaient... qui est quand même un thème récurrent des rentrées. Mmh. Après, effectivement, là, il y a une particularité, c'est qu'il y a une dégradation de la situation socio-économique d'un certain nombre de personnes et qu'il y a un mal-être qui existe et un sentiment de crise qui existe et qui est vécu et qui est réel pour une partie de la population, avec un pouvoir d'achat qui s'est dégradé pour un certain nombre de personnes. Et donc, ça permet... C'est un des éléments qui peut permettre d'exprimer une colère. Après, c'est pas garanti, c'est pas assuré.
Je sais qu'on retourne au standard et lire la question de Serge. Allez-y aussi sur WhatsApp, vous pouvez nous envoyer des notes vocales, ça permettra de vous entendre aussi, ce sera avec plaisir. Voici ce que dit cet auditeur, Anne Rosenchère. Quand il existait une communauté des ouvriers, on pouvait imaginer que tout bloqué avait du sens parce que c'était décidé par le plus grand nombre. Aujourd'hui, il n'existe plus, donc il y a un puzzle de communautés qui s'identifie dans une espèce de colère. Mais quelle colère, nous dit notre auditeur. Et je trouve assez intéressante sa remarque, en fait.
C'est toute la question de l'effondrement des corps intermédiaires que l'on paye aujourd'hui dans à la fois l'effritement du commun qui faisait que quand même on s'identifiait à un mouvement, à une fierté et on établissait un rapport de force. Là, plus on se sent en fait isolé et éparse dans la façon dont on va s'organiser, plus on est violent. Donc je pense que oui, il y a quelque chose dans la forme qui a vraiment changé par rapport à quelques décennies.
Mais il y a aussi quelque chose dans le bloquer tout,
oui,
en fait. Enfin,
oui,
bloquons tout.
Y venir.
Au moment des Gilets jaunes, que ce soit les mêmes ou pas, en fait, la colère ne s'exprimait pas de la même manière et il n'était pas question de blocage. Non. Au contraire, il était question, au contraire, de participer
en fait,
à la vie et d'y avoir sa part, sa juste part.
En fait, les Gilets jaunes, d'abord, il y a quand même... Même s'il y avait aussi des revendications éparses et les cahiers de doléances l'ont montré, mais il y avait quand même un slogan qui n'avait rien à voir, qui était un slogan qui disait « Où va l'argent ?» On se souvient, c'était vraiment ça le slogan, c'était de dire « C'est pas possible de vivre dans un pays où la dépense publique est quand même importante, où la pression fiscale est importante et où les services publics comme l'école et l'hôpital... » Et donc, je me souviens, c'était même...
Il y avait des choses flécher mes impôts.
Exactement, il y avait ça, il y avait le pouvoir d'achat, les gens qui n'arrivaient pas, le pouvoir qui ne paye pas assez, et il y avait... tout simplement la volonté d'être sur la photo. C'est-à-dire de dire, écoutez, là, dans les métropoles, vous êtes dans votre truc, dans votre bulle, on existe, on est là, on a des modes de vie, arrêtez de nous mettre les taxes diesel, et de ça venait aussi après les 80 km/h, etc. Bref, il y avait quelque chose aussi de revendication des modes de vie. Là, on est dans autre chose. En effet, ce slogan « bloquons tout », il est beaucoup plus... il apparaît comme beaucoup plus politique, comme adressé « on va bloquer pour que, pour que la situation s'envenime et que les politiques n'aient pas le choix que de tout arrêter, de changer, etc.
Mais du coup,
on sent bien que ça s'adresse à Emmanuel Macron.
Mais alors du coup, il y a eu une réponse assez immédiate ces derniers jours de ceux qui pourraient aussi être les victimes de blocotout, c'est-à-dire vous êtes gentils, mais qui peut bloquer, enfin qui peut arrêter de travailler subitement, rester chez lui, confiné, comme ils le disent parfois. Quand on bloque le pays, mais pour dire les choses clairement, c'est pas Bernard Arnault qu'on bloque, c'est la petite PME du coin, c'est la station-service, c'est la agriculteurs, etc. On a très vite quand même senti monter ça.
Oui, et ce que Frédéric vous dites, Dabi. Votre remarque, ça rejoint le deuxième moteur de ce mouvement. Il y a d'un côté la justice et de l'autre le fameux clivage gros-petit. Dans la situation que nous connaissons, ce sont les gros, ceux qui vont bien, qui écrasent les petits, et la grille de lecture de l'action gouvernementale, de toute une série de situations. Je pense au mouvement des taxis, qui veulent tout bloquer. Je pense aux pharmaciens, qui ont bloqué, entre guillemets, la délivrance de médicaments le 16 août, ça n'a pas été vu, ça rentre dans ce bloquons tout. C'est le bloquons tout qui répond à l'action du politique, qui bloque tout, qui ne fait rien. Et pour beaucoup, c'est les gros qui arrivent à s'en tirer. Hein. C'est le livre de Pierre Bienbaume, Le peuple contre les gros, versus les petits qui souffrent. C'est en ça que le moteur de l'injustice me paraît encore plus fort qu'au moment des Gilets jaunes, même si on n'est pas sûr de la réussite du mouvement, comme il l'avait, entre guillemets, réussi avant de Pierre périclité en 2018.
On reviendra d'ailleurs à réussite ou pas, et pour quelles raisons, et du coup ce qui peut amener éventuellement celui-là s'il finit par exister. L'idée de bloquer, Sylvain Boulouk, historiquement, est-ce qu'on a déjà bloqué, en fait
Alors, historiquement, oui.
Alors, 68,
renvoie,
évidemment,
ça
mais...
Ça renvoie à l'idée de grève générale. Alors, c'est une notion...
36, 68
Oui, ça, alors, c'est une notion même qui est bien antérieure, parce que la première grande grève générale, c'est en Angleterre, avec le chartisme, en 1842. Après, l'idée de grève générale est théorisée au 19e siècle, pas en France, au moins par dans les années 1890, et c'est devenu quelque chose qui était le signe avant-coureur, peut-être d'un changement social beaucoup plus profond. En 1920, il y avait une grande grève des cheminots qui a été un échec, et du coup, cette idée de grève générale s'était transformée en mythe soviétique. Il y a eu un glissement avec l'imaginaire de la révolution, de la prise du pouvoir par les bolcheviks, puis de la révolution d'octobre, qui a changé les choses. Après, en France, effectivement, il y a eu deux grandes grèves générales, une en 1936, plus ou moins préparée, et l'autre complètement spontanée en 1968. Et effectivement, c'est...
Et depuis, on court après, non ?
Et depuis, c'est... on court après. Avec, dans... enfin, il y en a une troisième où ça, qui ne touchait que les cheminots, celle de 1995, qui correspondent encore à des victoires. Depuis 1995, les salariés, grosso modo, ont tous été confrontés à des échecs, que ce soit les sur les retraites ou sur...
Sauf le CPE, quand même.
Sauf le CPE, mais c'est spécifique, puisque ça touchait principalement des lycéens. Sinon, il y avait aussi la loi de Vaquet dans ce cas-là. Et il y a une réponse des gouvernements depuis 2003, avec la fameuse formule de Jean-Pierre Raffarin, qui est « c'est pas la rue qui gouverne, donc c'est le peuple ». Après, ça rend... Enfin, c'est pas le peuple, c'est les élus. Ça renvoie à un débat qui est aussi vieux que la Révolution française, puisque c'est là où, je vous rappelle, il y a une dichotomie en France très très forte entre les élus qui doivent décider, et du coup c'est là où on interdit les corporations et donc les revendications corporatives. Donc cette dichotomie, elle avait un peu disparu, puisqu'il y avait une démocratie sociale, même si elle était conflictuelle, qui existait en France. Cette dichotomie avait disparu, et depuis une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, elle a eu tendance à revenir, et on voit que les efforts de dialogue social, que ce soit entre organisations patronales et organisations syndicales, ou même dans le Parlement, les efforts de dialogue parlementaire sont souvent extrêmement limités. Donc c'est un vrai problème de fonctionnement plus profond de la société française, qui a quand même une vision très pyramidale des choses.
Anne Rosenchère, deux choses, parce qu'il y a aussi des questions autour de l'identification au fond du mouvement. On avait le même problème effectivement au moment des Gilets jaunes. D'abord, un, est-ce que ce qui s'est passé le 8, ce qui se passera le 8, pardon, va vraiment changer cette donne-là, en fait, pour le 10? Donc est-ce que ça étouffe un peu cette perspective-là? Et dans l'hypothèse où ça ne l'étouffe pas, on se souvient comment sont morts les Gilets jaunes. Ils sont morts de ce qu'ils avaient créé, au fond. C'est-à-dire que au bout d'un moment, si on ne sort pas quelqu'un pour être le porte-parole de quelque chose, ou qu'on n'arrive pas vers, j'en sais rien, des élections ou autre, à la fin, ça tombe. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à la même conclusion si ça sort? Mais est-ce que ça sort quand même, puisqu'il y aura le 8 septembre avant?
Les Gilets jaunes, ils sont morts de ça, mais en même temps, il y a d'abord une baisse de la mobilisation, une fois qu'Emmanuel Macron fait une puis deux interventions, disons, je vous ai compris, je veux lancer un grand débat international, je vais faire les cahiers de doléances, je vais débloquer de l'argent, il répond aussi à des trucs qui sont très concrets. On a parlé des mères célibataires, il y a cette promesse de faire une assurance de la pension alimentaire, etc. Donc, je pense que tendanciellement, il baisse d'abord parce que il y a des gens qui disent faisons-lui confiance. Il y a quand même eu un vrai succès du grand débat. Enfin, les gens jouent le jeu. Enfin, on dit les Français, les Gaulois réfractaires, ingouvernables, mais il y a la plupart du temps, ils savent jouer le jeu. Aujourd'hui, je dirais que, par rapport au 8, si la mobilisation prenait autour du budget, là forcément le 8, ça risque de la faire baisser, parce que on ne sait pas ce qui va se passer, mais il se peut que le gouvernement, la confiance ne soit pas votée. Dans ces cas-là, ça enlève de l'enjeu. Mais on voit bien ce qui est en train de se passer, et ce qui est assez logique, c'est que tout se concentre sur Emmanuel Macron, parce que En fait, on est dans une situation bizarre depuis 2022, depuis les législatives de 2022, quand les Français n'ont pas donné la majorité à l'Assemblée, au président qu'ils venaient d'élire. On sent que l'exécutif se tâtonne, se prend les murs
et que
pour
le
sortir
en légitimité
cette...
et dans toutes nos conversations.
Et essaye de sortir de cette crise. Et là, il y a déjà eu deux cartouches. Il y a eu la dissolution, il y a eu deux premiers ministres de semi-cohabitation. Si le deuxième tombe le 8, forcément, les regards vont à nouveau se focaliser sur Emmanuel Macron, et c'était très clair ce matin.
Exactement,
c'est chez Jean-Luc Mélenchon.
C'est ce que j'allais ajouter. C'est exactement ce que cherche effectivement LFI, qui très vite en fait s'est greffé à ce moment-là, à ce mouvement-là, Frédéric Dabi. Mais moi, du coup, là, je n'arrive pas à comprendre si ça aide un potentiel mouvement, ou au contraire, si ça en fait quelque chose qui n'a plus de sens, puisque le contre les partis, contre les élites, etc. Et même à l'inverse, d'ailleurs, si c'est de cette mobilisation-là dont les partis ont besoin après le 8.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs dimensions. Déjà, Jean-Luc Mélenchon avait d'abord essayé, en fin d'année dernière, d'appeler à la destitution, à la démission d'Emmanuel Macron, que à travers des sondages, les Français souhaitaient, mais n'en parlaient pas spontanément, c'était pas un sujet pour eux. C'est vrai aussi que LFI, on le voit dans des enquêtes qualitatives, dans des propos de Français, quand LFI dit on va soutenir ce mouvement, ça peut être une sorte de tue-l'amour. C'est-à-dire beaucoup de personnes, n'oublions pas, quand on interroge les Français sur la cote des partis politiques, c'est aujourd'hui, ici et maintenant, même s'il y a un socle élevé de soutien, un socle répulsif vis-à-vis de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, qui ne donne pas envie de s'associer au mouvement. C'est une stratégie systématique de LFI depuis longtemps, je parlais de 2022, la réforme des retraites, où d'ailleurs il y avait eu un coup de gueule du patron de la CGT, y compris de la CFDT, qui disait que les politiques cessent de vouloir s'identifier au mouvement. Jean-Luc Mélenchon a aussi en tête le fait d'avoir peut-être pris un petit peu tard le train du soutien aux Gilets jaunes par rapport à Laurent Wauquiez, sachant que dans les enquêtes faites au moment de la campagne pour les élections européennes, ce qui a arrêté les Gilets jaunes, c'est, vous l'avez dit, le grand débat et un réceptacle, à savoir des élections européennes, où les listes pro-Gilets jaunes ont fait 1 à 2% au maximum. Et quand on interrogeait les Français à ce moment-là, on avait entre 10 et 15% qui se disaient « Oui, je me considère comme un Gilet jaune ». C'est une minorité. Dans une logique d'extrapolation, ça faisait 5 à 6 millions de personnes. Et très clairement, quand on regardait leur vote, ils ont voté très largement pour la liste Jordan Bardella et beaucoup moins pour la liste Manon Aubry.
La traduction en vote de ce genre de mouvement, on va y venir ensemble. Sylvain Boulou, je voudrais juste vous soumettre la remarque de Frédéric. Et là, pour le coup, Anne Rosenchère, moi j'ai l'impression de voir quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'étaient les Gilets jaunes à ce moment-là. Il dit « Le 10 septembre est justifié, mais au-delà de la colère, il faut que ce soit un jour de proposition. Une fête de la musique bis, dit-il même, pour essayer de nettoyer toutes les humiliations de la part de nos dirigeants et ramener de la joie. J'ai l'impression sur ce message d'être amené, là, pour le coup, un peu en 2018, dans le côté joyeux, parce que les ronds-points étaient censés être joyeux à ce moment-là, et proposition. Et il l'était.
Ouais. Bien sûr. Et par ailleurs, il y avait cette volonté de compter dans le débat et donc de proposer. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, le succès incroyable des cahiers de doléances le montre. C'est-à-dire que les gens ont répondu à l'appel à s'exprimer.
Mais ça, on sent pas ça dans le mouvement à venir. S'il y a un mouvement,
non, je suis d'accord.
Il n'y a pas d'expression.
Là, pour l'instant,
il y a juste bloquons tout, fermons.
Ce qu'on entend, c'est bloquons tout. C'est le seul mot d'ordre et c'est un mouvement uniquement pour l'instant de colère. Après, on sent qu'il est quand même mouvant. D'abord, il a déjà beaucoup muté par rapport à ses débuts. Et là, on voit que les partis politiques essaient d'en faire autre chose. Je ne sais pas. Il y a quand même une très très forte impopularité du président de la République dans le pays. Elle est très notoire et elle est beaucoup plus importante qu'au moment des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, il a été surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ce que son personnage symbolise quelque chose d'aussi méprisant et d'aussi pour une partie des Français.
Voilà. Gilets jaunes 2018,
mais il n'y avait pas ce niveau d'impopularité et voire parfois pour certains Français de détestation d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça fait un ferment de mobilisation? Ça, moi, je n'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien, mais on sent vraiment que c'est ce qui est en train d'essayer de faire de ceux qui veulent faire monter le mouvement.
Je voudrais qu'on écoute une note vocale, celle de Sandy, et on la découvre ensemble.
Bonsoir, vous parlez du contexte d'injustice sans rappeler que parmi les éléments qui font aussi partie du contexte, il y a la non-adoption de la taxe Zucman. Et quand François Bayrou parle de dépenses publiques à comprimer, les citoyens gardent aussi en tête que le gouvernement ne veut pas aller chercher du côté des recettes.
Merci beaucoup pour cette note vocale, Sandy, Frédéric Dabi.
Ce que dit votre auditrice est très juste, c'est on est en plein dans ce que j'appelle le clivage gros-petit, c'est-à-dire on a trouvé que le Premier ministre le 15 juillet a été plutôt courageux, la prise de conscience de la dette, contrairement à ce qu'il a dit hier, progresse très fortement chez les Français. On a un Français sur quatre, qui spontanément sait que le premier poste de dépense budgétaire, c'est les intérêts de la dette. C'est quand même assez technique. Ça se sait de plus en plus, les gens le voient dans leur vie quotidienne. Or, sur les solutions qui ont été proposées le 15 juillet, l'absence de taxes sur les ultra-riches donne le sentiment que ce sont les salariés qui vont payer avec les deux jours fériés, avec en plus cet imaginaire, on touche à des acquis sociaux, après la retraite, après la monétisation de la cinquième semaine
François
de congé payé.
François Bayrou a essayé d'y aller, puisque la seule chose qu'il a mis sur la table, c'est ça, potentiellement, en disant, je me souviens plus quelle est la phrase exacte, mais l'effort sera égal pour tous, donc c'était une manière de dire les hauts salaires paieront aussi.
Oui, mais c'est pas comme ça du tout que ça a été perçu. Ça rappelle, alors, 30 ans en arrière, quand Chirac et Juppé arrivent au pouvoir, et après une campagne électorale de la France pour tous, la feuille de paille n'est pas l'ennemi de l'emploi, les deux premières mesures, parce que les caisses sont entre guillemets vides, c'est 2 points de plus de TVA, 1 point de moins de livret A, ça a été un moment d'exacerbation, d'impopularité. Dans l'histoire de la 5e République, et l'IFOP peut remonter à De Gaulle, Debré, le couple Macron-Bayrou est le plus impopulaire de la 5e République, tout couple confondu.
Il y a plein de gens au Standard, Sylvain Boulot, qui reviennent sur la traduction ou pas politique, donc l'incapacité des Gilets jaunes à le faire à un moment. Moi, je me demandais en fait si historiquement, de toute façon, un mouvement de contestation, à un moment, avait fini par une traduction qui était une traduction politique, et donc si vraiment il faut prendre ce chemin-là ou pas,
Alors, c'est toute la différence entre un mouvement social et des projets de loi. C'est-à-dire que normalement, un mouvement social, encadré ou non par des organisations syndicale va arriver avec des revendications, et dans un deuxième temps, ça va être aux politiques de légiférer. Bon, on a l'accord Matignon, l'accord de Grenelle en 68, donc là, il y a un premier temps qui est la revendication, un deuxième temps qui, normalement, est le dialogue social, Matignon puis Grenelle, c'est du dialogue social, et un troisième temps, la traduction législative qui doit avoir lieu compte tenu des accords sociaux. Là, avec le mouvement qui est en train de se créer, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a des revendications qui sont à la fois sur la qualité de vie, sur le niveau de vie. Alors là, le niveau de vie, ça peut être résolu par un certain nombre d'augmentations de salaire, même si ce n'est pas la tendance actuellement, et des revendications qui sont purement politiques. Donc ça fait un conglomérat extrêmement difficile à cerner et qui va proposer quoi ? La différence, par contre, avec les Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes, au départ, rejetaient les organisations syndicales. Là, il semble que ce soit, au moins pour une partie des personnes qui appellent à bloquer tout, mais c'est pas uniquement bloquer tout, il y a d'autres appels qui existent en même temps, c'est pas exactement la même chose. Même s'ils veulent pas être récupérés, on n'est pas exactement dans le même, dans le même processus social.
Après, il s'agit de savoir, effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup de revendications ici et là, mais là, pour le coup, on est un peu habitué, on a l'impression que chacun revendique au pas de sa porte aujourd'hui, enfin, même avant des élections, on cherche quelle est la proposition qui va exactement à ce que nous voulons et cherchons. C'est peut-être l'un des problèmes d'ailleurs qu'on a, mais du coup on a Frédéric qui dit ceci, mais c'est toujours la même question: où est passé l'argent et comment le récupérer? Qu'ils s'en aillent tous, les politiques qui s'échangent des postes depuis plusieurs années, qui sont dans l'incapacité de se projeter dans un projet pour la France et qui profitent aussi de nos efforts.
C'est un jugement très sévère. Il y a clairement une, comme vous le disiez au début, une espèce de déception vis-à-vis des élites. Alors, il y a une partie qui est, on va dire, injuste et un peu systématique et un peu caricaturale, on va dire. Et il y a une partie, et ça j'essaye de le dire beaucoup dans nos milieux, parce que parfois, moi j'ai rencontré pas mal de gens, notamment au moment des Gilets jaunes, qui me disaient pas comme ça, mais qui disaient « on n'est pas anti-élitiste ».
Ouais, ouais, ouais.
Si une élite, c'est de savoir, utiliser son privilège d'influence dans le débat public ou même dans la décision et l'action pour faire remonter aussi le diagnostic des autres. Alors on est d'accord. C'est le principe de cette délégation. Une société, ça marche souvent comme ça, avec ses injustices, etc. Mais en revanche, si l'élite se replie sur elle, ne nous calcule même pas. Et quand tout d'un coup on émerge un peu dans les urnes ou dans les ronds-points, on nous dit vous êtes des fachos, là ça va plus.
Mais dans les urnes, non, le problème c'est qu'ils émergent jamais dans les urnes, ils émergent sur les ronds-points, ils émergent sur les parkings, mais ils émergent pas dans les urnes.
Il y a quand même des partis qui arrivent à canaliser le discours anti-élite. Et c'est vrai qu'à travers le discours anti-élite, il y a deux ferments très forts. Une crise du résultat, parce que les élites, notamment politiques, n'arrivent plus à changer d'avis, à améliorer les problèmes. Ce que vous disiez sur 36 et 68, cette répartition des rôles, mouvement social et politique, n'est plus possible aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de majorité absolue, on a une assemblée bloquée. Et une crise de l'écoute, le sentiment de déconnexion des élites. Entre parenthèses, les seules élites qui échappent complètement à la critique, au discrédit, ce sont les élites sportives, parce qu'il y a la dimension de mérite et de talent qui est respectée, y compris par les plus réfractaires.
Je voudrais qu'on écoute une note vocale, une nouvelle, c'est celle de Benj.
Bonjour France Inter. Cette journée du 10 septembre n'est pas une journée de grève, mais bien de blocage. Nous, les honnêtes travailleurs, en tout cas pour ma part, nous voulons dire pour qui on paye et pourquoi on paye. Car on a le sentiment que le gouvernement n'est plus existant, et de fait il ne l'est plus depuis la dissolution. Et que face aux crises qui arrivent, eh bien, comme d'habitude, on vient faire les poches des pauvres, parce que ma foi, les pauvres, ils peuvent pas bien se défendre. Moi, personnellement, je vais pas aller manifester, mais ce jour-là, je consommerai rien, et certainement toute la semaine, parce que je veux dire non, je ne veux plus. Moi, je ne veux plus. C'est un peu une sorte du MeToo de la dépense, et de ce réflexe pavlovien de venir toujours taper sur les mêmes. Donc non, on veut plus, et on attend de voir qu'est-ce qu'on nous propose à la place. Merci beaucoup France Inter.
Et merci Benj pour cette note vocale. Une réaction là-dessus, Anne Rosenchère?
C'est assez représentatif, non, parce que comme on vous dit,
j'allais vous demander si on le mettait sous verre en se disant c'est ça le portrait robot, c'est Benj le portrait robot du 10 septembre, mais qu'est-ce qu'on en sait en fait?
En fait, on n'en sait rien.
Après, c'est ce qu'on appelle aussi les nouvelles modalités du militantisme, c'est-à-dire comme on voit que les grèves et les manifestations ne sont pas forcément écoutées, il faut trouver d'autres solutions. Alors, il y a quelques années, Cantona, le footballeur, avait proposé de retirer son argent des banques pour faire s'écrouler l'économie et pour provoquer un choc. Là, on a
personne l'a fait, quoi. Vous voyez, ma question, c'est vraiment ça. Après,
c'est tout le problème d'un mouvement social. C'est qu'un mouvement social peut se déclencher. Alors, c'est vrai que maintenant, dans une société hyper médiatisée comme celle qui existe aujourd'hui, le moindre bruissement sur Internet, immédiatement,
tout le monde fait. La résonance des réseaux sociaux.
Tout le monde se focalise dessus.
De ce qui se passe dans la rue, ouais.
Ce qui n'était pas du tout le cas, que ce soit dans les années 60 ou même dans les années 90. On était quand même beaucoup plus encore sur la distribution de tracts et les échanges.
Et à ce titre, il y a un autre mouvement qui est intéressant de mettre en relation avec ce dont on a parlé, c'est Nuit Debout. Parce que Nuit Debout avait été quand même très traité. Parce que c'était des revendications un peu de ce nouvel genre très anti-consommation, avec matinée aussi de revendications sociétales sur les dominations, etc. Mais ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que Nuit Debout avait été très traité par les médias. Excusez-moi, je vais être un peu anti-corpo, mais je me mets dedans, parce qu'il y avait une sociologie qui était plus proche de celle des journalistes.
C'était Place de la République, François Ruffin.
Exactement. Et si vous voulez, je me souviens que quelques mois après les Gilets jaunes, je regardais un petit peu. C'est un peu moins vrai maintenant, donc je ne vais pas être trop. Par exemple, sur les recherches, les thèmes de mémoire ou de recherche, il y avait encore beaucoup plus de Nuit Debout que sur les Gilets jaunes, alors qu'on n'était pas du tout sur la même échelle. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne représente rien. Ça représente quelque chose. Ça représente d'ailleurs culturellement quelque chose, notamment dans les métropoles. Saint-Paul, etc. Mais c'est pas forcément le ferment d'une mobilisation énorme.
Il nous reste à peine une minute, mais peut-être que, et ça peut-être historiquement ça se tient, Sylvain Boulouk, en effet, en soi, c'est un échec, puisque ça ne déboule pas politiquement, etc. Mais on en parle encore. On se souvient effectivement de Cantona en 2010, on se souvient de lui de Nuit Debout, on se souvient des Gilets jaunes, on se souvient des ersatz d'Occupy Wall Street qu'on a eu nous aussi en France. Donc
après,
la réussite, c'est qu'on en parle toujours.
Oui, mais après, il y a une mémoire des mouvements sociaux qui est présente et qui se transmet de génération en génération. Mais ça, c'est aussi vieux que les mouvements sociaux. Les premières expériences de grève au 19e siècle, les ouvriers qui savaient écrire notaient ce qui se passait, le lisaient à ceux qui ne savaient pas lire et transmettaient leur méthode. Donc c'est quelque chose qui existe, alors qui est beaucoup plus facile aujourd'hui que ça ne l'était au 19e siècle. Mais c'est quelque chose de... C'est un continuum historique.
Ce sera aussi un continuum dans les téléphones sonnent parce qu'on en parlera d'ici au 8 et d'ici au 10 aussi.